Merci à tous, merci au Rav Grunstein de nous accueillir et d'assister à cette séance. Merci Alexandre de t'être prêté au jeu du changement des dates, puisqu'il n'a pas été évident de changer une date qui avait initialement été proposée et décidée. Merci à toutes et tous, comme on dit maintenant, d'avoir bien voulu dégager une partie de votre après-midi du dimanche. Pour venir m'écouter, j'ai ici des visages amis, d'une part, et puis des visages de spécialistes de Spinoza, puisque certaines et certains d'entre vous ont écrit aussi sur Spinoza. Et par conséquent, c'est une double intimidation qui pèse sur le propos que je vais tenir. De quoi s'agit-il ? Ce que je voudrais essayer de proposer aujourd'hui, c'est simplement un travail qui, en effet, prolonge la traduction que j'ai proposée pour la Bibliothèque de la Pléiade, qui est parue il y a quelques mois. Et il me semblait que, contrairement à une idée qui était un peu répandue, qui me paraît facile, mais fausse, la traduction ne consiste pas toujours à interpréter. Et par conséquent, après avoir traduit ce texte, je voudrais essayer maintenant, dans les années qui vont suivre, ou dans les mois qui vont suivre, de l'interpréter. On dit très couramment que traduire, c'est interpréter, traduire suppose une interprétation, etc. Je trouve que c'est une idée facile, qui fait la part très belle au traducteur, mais qui n'est pas vraie, et en l'occurrence, c'est pas l'expérience que j'ai faite, moi, en traduisant Spinoza. Donc maintenant, après l'avoir traduit, je voudrais essayer de le comprendre, ou en tout cas d'en proposer une interprétation. Et c'est pourquoi les quelques idées que j'évoquerai ici sont parfois simplement incoatives ou incertaines, et se prêteront tout à fait à la discussion. J'ajoute qu'il y a un certain nombre de livres récents même, que je n'ai pas pu lire sur la question que j'aborde aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un travail en cours. Alors, dans la mesure où les questions de notre séminaire tournent autour de la figure du juif en exil, la question que je vais poser est celle du rapport entre le théologico-politique, je laisse pour l'instant indéterminée cette expression, mais j'y reviendrai, et le judaïsme, ou le peuple juif, ou l'histoire juive, j'aurai à préciser aussi les termes de cette question. Avant tout, présentons le traité théologico-politique. Le traité théologico-politique paraît en 1670. Spinoza commence à le rédiger en 1665. Ça lui a pris 5 ans. Il interrompt d'ailleurs en 1665 la rédaction de l'éthique qu'il avait commencé pour rédiger le traité théologico-politique, qui lui paraît nettement plus urgent. Une fois le traité paru en 1670, de façon anonyme, chez un éditeur qui porte un faux nom, Spinoza a été bien obligé de recourir à ses expédients, il se remet à la publication, enfin au travail de rédaction de l'éthique qui paraîtra après sa mort en 1677. Ce qui veut dire que Spinoza n'a pas fait paraître l'éthique de son vivant, et ce qui est très important, le Spinoza des contemporains est bien davantage celui du traité théologico-politique que celui de l'éthique. Il faut inverser les perspectives. Les contemporains connaissaient peu ou mal l'éthique. Ça circulait sous forme de feuillets dans un public choisi, mais ce que les contemporains connaissaient, même si c'était paru sous pseudonyme, c'était le traité théologico-politique. Et on peut s'imaginer que Spinoza, en 1668-67, au milieu de la rédaction du traité théologico-politique, il se disait que s'il devait lui arriver quelque chose, ce qui lui paraissait le plus important et le plus urgent, c'était d'avoir laissé le TTP, pas l'éthique. Donc en vérité, nous, 4 siècles plus tard, nous devons inverser la manière dont nous considérons Spinoza et inverser le rapport d'importance entre les œuvres. Peut-être que le traité théologico-politique était le plus important. Alors, de quoi s'agissait-il dans ce traité ? Alors, une lettre l'explique, page 1045, alors je donnerai les pages dans la nouvelle édition, donc de la Pléiade, une lettre l'explique, c'est la lettre 30, elle est très fameuse, et dans quelque édition que vous travailliez, vous la trouverez. Il dit qu'il compose actuellement un traité sur l'écriture, donc sur la Bible, pour 3 raisons, les préjugés des théologiens. Les théologiens, d'une façon générale, nous dit-il, s'opposent à ce que les philosophes fassent leur travail, à ce que les hommes fassent de la philosophie. Ça, c'est le premier point. Donc, que faire ? Répondre aux théologiens sur leur terrain. Lire la Bible, parce que c'est de la Bible que les théologiens trouvent argument pour interdire aux hommes l'exercice de la philosophie. Deuxième raison, répondre à l'opinion que le vulgaire a de moi, dit-il. Déjà, et ce n'était pas seulement suite à son excommunication, mais la figure de Spinoza déjà était sulfureuse. Et donc on s'imagine qu'il est athée, qu'il est anti-religieux, etc., etc. Donc il fallait répondre à cette accusation, c'était une manière de plaidoyer pro domo. Et en effet, que fera le traité théologico-politique ? Il montrera que si la philosophie est utile pour les philosophes, la Bible est utile pour la plupart des hommes, parce que elle nous dit une seule chose, la Bible, c'est que aimer Dieu, c'est pratiquer la justice et la charité envers son prochain. Et par conséquent, pour pratiquer la justice et la charité, la pratique de la religion est fondamentale et nécessaire. Donc Spinoza dira, ben, voilà, je sauve la religion et j'en fais même un outil absolument fondamental dans la pratique de la justice et de la charité. Troisième raison, défendre la liberté de philosopher et de dire notre sentiment. Défendre ce que l'on appelle, un peu rapidement, la liberté de penser. Comment le faire ? En montrant, là aussi à partir de la Bible, que la liberté de penser est laissée totale par la Bible. Comment ? Spinoza nous dit la chose suivante. La Bible, l'Écriture, comme il dit, il emploie le mot « biblia » une seule fois. La Bible ne nous prescrit qu'une seule chose, c'est la justice et la charité. Le Dieu de la Torah, pour parler notre langage, c'est le Dieu du rapport à autrui. Par conséquent, les opinions spéculatives, philosophiques, théoriques qu'on pourrait avoir sur ce qu'est Dieu, sur la façon dont il a créé le monde, sur les raisons pour lesquelles il agit, etc., etc., ces questions spéculatives sont laissées complètement libres. La Torah ne nous prescrit aucune opinion quant à la nature de Dieu et à la création du monde, etc., etc. Sur ce point, il est fondamentalement opposé, naturellement, à Maïmonide, qui faisait, par exemple, du prophète un surphilosophe, quelqu'un qui avait une connaissance spéculative de la nature de Dieu. Spinoza nous dit, le prophète et les prophéties ne nous disent rien de spéculatif, par conséquent, une fois que nous avons compris que la Bible nous prescrit un rapport à autrui, la pratique de la justice et de la charité, le reste, nos représentations philosophiques, sont complètement libres. Donc, l'entreprise de Spinoza, qui consiste à poursuivre ces trois buts, exige qu'il se penche sur le texte biblique, l'Ancien Testament plutôt que le Nouveau, tout simplement parce qu'il maîtrise l'hébreu et pas le grec. C'est la seule raison qu'il donne. Il dit le grec, le Nouveau Testament, l'examen en a déjà été mené, et puis je ne suis pas assez bon helléniste. Pour pouvoir parler de la Bible, il faut connaître l'hébreu. C'est une chose sérieuse. L'hébreu, je connais. Donc, je parlerai de l'Ancien Testament. Donc, il faut mener une enquête sur l'Ancien Testament pour répondre à ces trois objectifs et montrer que, aussi bien l'usage de la philosophie que l'image qu'on a de Spinoza, que la liberté de penser doivent être préservées. Tels sont les trois objectifs que Spinoza s'assigne dans le traité théologico-politique. Reste que le concept de traité de théologico-politique articule déjà une espèce de paradoxe. Le paradoxe, c'est que Spinoza intitule son ouvrage « Traité théologico-politique », mais ne reprend jamais le mot « théologico-politique » dans l'œuvre. Il ne le définit jamais. Et c'est tout à fait paradoxal. C'est-à-dire qu'on n'a pas de définition du théologico-politique. Il y a eu des enquêtes savantes. L'une des plus importantes a conduit à dire que le mot théologico-politique était apparu à Cologne en 1612 et que, en gros, au début du XVIIe siècle, on utilise beaucoup ce syntagme, ce qui fait que Spinoza pouvait l'utiliser sans véritablement le définir. C'est tout à fait vrai, mais c'est peu satisfaisant sur le plan conceptuel, parce que plus un concept est utilisé, moins il est précis. Et Spinoza aurait dû s'attacher à le définir. Et d'autre part, faute de l'avoir défini, Spinoza a ouvert un champ, qui n'est plus un concept, mais qui est un champ, dans lequel on va mettre à peu près tout. Et aujourd'hui, on a des enquêtes sur le théologico-politique chez Saint-Augustin, le théologico-politique dans l'Antiquité, le théologico-politique au Moyen-Âge, et jusqu'à l'époque moderne, évidemment, les questions de Carl Schmitt, etc., jusqu'à Maritain, enfin. Bon. Donc la question théologico-politique, elle devient si ouverte qu'on ne sait plus vraiment de quoi on parle. J'ajoute que dans cette expression, il y a un grand absent, c'est qu'on voit bien la question du théologique, on voit bien, j'en parlerai tout à l'heure, la légitimité de parler du politique, mais s'il s'agit de défendre la liberté de philosopher, le mot philosophie est absent du titre. Donc c'est quand même un petit peu étrange. Comment comprendre le concept de théologico-politique? Je voudrais proposer une définition en fait très très simple. C'est simplement le rapport, le lien entre le théologique et le politique. De quelle nature ce lien est-il? Et quel est le diagnostic que pose Spinoza sur ce lien? Il est très simple. En somme, les politiques ont besoin, pour exercer leur pouvoir et pour diriger les hommes dans la cité, de se parer d'une aura religieuse. Et du reste, ce n'est pas difficile à concevoir, il n'y a pas de politique qui se passe de tout un décorum qui fait en fait penser au décorum religieux. Il faut des rites. L'intronisation par la grande marche dans le Louvre, tout un appareil politique qui est aussi un appareil religieux. Il faut d'une façon ou d'une autre que les chefs politiques soient revêtus d'un prestige religieux. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait faux, et nous le sentons comme ça. Ce qui, d'ailleurs, peut induire de leur part une possibilité d'usurpation d'un pouvoir religieux. Parce que, dès l'instant que le pouvoir politique prend une décision et qu'en même temps, il revêt un prestige religieux, il est très difficile de discuter la décision. Cette parole devient parole prophétique, oraculaire, bref. Elle est revêtue d'un prestige religieux qui la rend indiscutable. D'un autre côté, le théologique, lui, a aussi un rôle politique. C'est-à-dire que les clercs, le clergé, les ministres du culte, quels qu'ils soient d'ailleurs, décident toujours, d'une façon ou d'une autre, de questions politiques, sont toujours tentés de déborder de la sphère très restreinte du religieux pour nous dire... Je le dirais un peu bêtement ici, pour qui voter, ce qu'il faut penser de telle ou telle décision politique. Alors qu'en vérité, nous dit Spinoza, si on circonscrit très simplement l'objet du religieux, ce serait, je l'ai dit tout à l'heure, l'application de la justice et de la charité pour obtenir notre salut. Le clergé a à nous apprendre comment gagner notre salut, mais pas ce que nous devons penser de telle ou telle mesure politique qui vise en somme à la gestion des corps, c'est-à-dire à la sécurité de la cité. Donc, le nexus, le lien théologico-politique est exactement celui-ci. Le théologique se pare de puissance, enfin, le théologique usurpe des droits politiques et le politique se pare d'un prestige religieux. Comment désarticuler ce lien qui devient politiquement étouffant, naturellement? Puisque si le politique est religieux, il devient indiscutable, donc on ne peut plus discuter des décisions politiques. C'est le règne de l'esclavage dans la cité. Et d'un autre côté, si les religieux prennent le pouvoir politique, c'est le règne, évidemment, de la superstition, car les religieux, nous dit Spinoza, au fond, sont des hommes. Donc, en fait, ils joueront simplement le rôle de directeur de conscience visant à diriger la vie de leurs concitoyens, en se parant en plus d'une autorité qu'ils n'ont pas. Donc il va falloir penser ce lien, le désarticuler, pas forcément le rompre. On verra qu'il ne s'agit pas forcément de le rompre, parce qu'il n'est pas tout à fait illégitime que le pouvoir politique soit doté d'un certain prestige qui le rapproche du religieux, après tout. Donc il ne s'agit pas forcément de séparer complètement le politique et le religieux. Mais il s'agit d'en discerner les modalités légitimes d'exercice. Alors, pour tout cela, je l'ai dit, il faut s'intéresser à la Bible. D'un autre côté, et c'est le deuxième paradoxe de cette introduction, il est paradoxal de s'intéresser aux Hébreux quand on s'intéresse à la question théologico-politique. Parce qu'en 1660, 1665, 1670, ça fait quand même un moment que les Hébreux n'ont pas de pouvoir politique à proprement parler. Ils n'ont plus d'État. Et Spinoza le rappelle dans un passage qui a été beaucoup discuté, sur lequel il y a eu un certain nombre de disputes, à la fin du chapitre 3. Après la destruction du Second Temple, les Hébreux n'ayant plus d'impérium, d'État, n'est-ce pas, ils n'ont plus eu à exercer de pouvoir politique. Et donc il est très étrange de voir que la question juive, l'histoire juive, l'histoire des Hébreux, va hanter le traité théologico-politique, alors que, dans une certaine mesure, la question de l'histoire juive était l'histoire juive était la moins propre à résoudre le problème théologico-politique. Après tout, j'ai envie de dire, la question de l'histoire de l'Église, ou bien des Églises réformées, était beaucoup plus importante sur le plan théologico-politique. Parce que là, on avait l'esquisse de religion nationale, enfin, on sait très bien ce que ça va donner. Et la question théologico-politique, elle se pose parfois, elle se pose toujours dans le cadre d'Église nationale. La réforme était une chose récente pour Spinoza. Et il vivait en pays calviniste. Donc il pouvait traiter des questions tout à fait différentes. Donc, la question que je soulèverais et que j'ai proposée à Alexandre, c'est dans quelle mesure l'histoire juive est en mesure, enfin, dans quelle mesure peut-elle nous permettre d'analyser le complexe théologico-politique, alors même que, à première vue, l'histoire des Hébreux n'est pas la plus propre à illustrer ce complexe théologico-politique. Comment donc comprendre ce lien? Alors, effectivement, et c'est ce que je montrerai dans une première partie, on pourrait tout à fait montrer que les Juifs, d'une façon générale, sont mis hors de cause dans cette désignation du complexe théologico-politique. Ce que je veux dire par hors de cause, c'est que on pourrait tout à fait dire, et ça inverserait d'ailleurs la tendance générale que l'on prête à Spinoza, que les Juifs ne sont pas la première cible de Spinoza dans le traité théologico-politique. Quand on regarde l'introduction, on s'aperçoit qu'elle a deux cibles. Et la préface plutôt du traité théologico-politique a deux cibles. Cette préface, certains ont montré qu'elle était construite comme un discours cicéronien, la grande rhétorique romaine. Et du coup, on n'a pas vu qu'en vérité, elle était construite en deux parties qui se répondent, et qu'il y a une vraie césure entre deux parties qu'on peut parfaitement suivre et montrer. Si je prends la première partie, de quoi s'agit-il? Première phrase. Si les hommes pouvaient diriger toutes leurs affaires suivant une décision certaine, ou que la fortune leur fût toujours favorable, ils ne seraient saisis par aucune superstition. D'où vient la superstition, nous dit Spinoza? De notre impossibilité à prendre un avis arrêté sur ce que nous devons faire. Pourquoi? Parce que le monde change tout le temps, les êtres avec lesquels nous avons à négocier sont eux-mêmes changeants. Par conséquent, nous ne pouvons pas agir suivant un dessein déterminé. Et donc, nous flottons entre l'espoir et la crainte. Le matin même, nous éprouvons de l'espoir, le soir, nous éprouvons de la crainte. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous nous rattachons à la superstition. De quelle façon? Eh bien, nous cherchons, dans l'expérience que nous avons, des signes de l'avenir. Alors, on prend des exemples, évidemment, de l'Antiquité, mais nous lisons dans les entrailles des animaux, ou bien nous lisons, on pourrait même dire que Freud a montré qu'il y avait dans un certain nombre de névroses la lecture des signes, un certain fétichisme. Si je vois ceci, il m'arrivera cela. Autrement dit, la superstition s'enracine dans l'insatisfaction où nous sommes et l'impossibilité enracinée dans la nature des choses, où nous sommes, de prendre des décisions arrêtées sur les choses. Alors, soyons plus précis. La superstition naît, en vérité, d'un travail de l'imagination. Supposons qu'il me soit arrivé toujours de belles et favorables choses quand je voyais tel ou tel objet. Il m'est difficile de ne pas espérer rencontrer cet objet pour l'avenir. Et il m'est difficile, quand je rencontrerai cet objet, de ne pas penser que l'issue sera favorable. Et voilà comment nous peuplons le monde alentour de signes favorables et défavorables. En fait, l'imagination surgit de notre besoin d'être rassuré sur l'avenir, donc de notre crainte, de ce que Spinoza appelle la fluctuatio animi, le flottement de l'âme. Nous flottons entre l'espoir et la crainte. Mais son mécanisme est celui simplement de l'association des idées. L'association des idées qui est le propre de l'imagination. Imaginer, c'est passer d'une idée à une autre en vertu d'un lien qui se répète et qui se renforce par sa répétition. Or, l'imagination, et cela Spinoza l'explique dans l'éthique qui venait de commencer à écrire, qui était à l'époque en trois parties, avant qu'il l'étende après le TTP en cinq, l'imagination est le fait de tous les hommes. Et donc, tous les hommes sont frappés par la superstition. Je le lis. Ainsi donc, de la cause de la superstition qu'on vient d'assigner, il suit clairement que tous les hommes sont par nature soumis à la superstition, quoi qu'en disent d'autres qui pensent que cela vient de ce que tous les mortels ont une idée confuse de la divinité. Ce n'est pas une question de savoir quelle idée de Dieu on se fait. C'est une question d'imagination et de position dans le monde. Les hommes par nature sont placés dans une position où ils ne peuvent pas être sûrs de ce qui arrivera, donc ils flottent, flottant. Il fonctionne par association d'idées. Donc, la superstition est universelle. Tous les hommes sont concernés par cela. Et alors, qui va, évidemment, travailler sur la superstition, qui va récupérer la superstition à son compte ? Le clergé. Et les politiques. Autrement dit, prêter un pouvoir religieux aux politiques, prêter un pouvoir politique aux religieux, est aussi une affaire de superstition. Donc, ce complexe théologico-politique, il affecte, si je puis dire, fondamentalement, tous les hommes universellement, et pas seulement les juifs. Certainement pas seulement les juifs. J'en voudrais une autre preuve à ceci, qu'on trouve dans cette page, une citation, j'appelle ça citation blanche, j'ai appris par les lecteurs de Gallimard que de toute façon, il n'existait pas, citation blanche. Mais enfin, comme on dit, un vers blanc, c'est-à-dire un vers noyé dans un texte de prose, il y a parfois dans les textes de Spinoza des citations dissimulées. Et il a cette expression, « Au surplus, les hommes, s'ils voient avec une grande admiration, avec un grand étonnement, quelque chose d'inaccoutumé, ils croient que c'est un prodige qui indique la colère des dieux ou de la divinité suprême. Et par suite, ne pas l'apaiser, cette divinité suprême, par des sacrifices et des prières, est tenu pour impie par les hommes soumis à la superstition et ennemis de la religion. Ce qui est impie, c'est de ne pas apaiser la colère des dieux. Évidemment, Spinoza critique cette attitude. Or, cette expression-là, par des hommes soumis à la superstition et ennemis de la religion, est une expression latine que Spinoza prend à Tacite, un historien latin du 1er siècle, qui s'en servait pour désigner, je vous le donne en mille, les Hébreux. Les Juifs. Je cite Tacite, Histoire 5.13. Il était survenu des prodiges dont cette nation, les Hébreux, aussi ennemie de tout culte religieux qu'adonnée aux superstitions, donc Tacite accuse les Juifs d'être superstitieux et ennemis de la religion, il était survenu des prodiges dont cette nation aurait craint de conjurer la menace par des vœux ou des victimes expiatoires. Ce que dit Tacite, c'est assez extraordinaire, c'est que les Hébreux sont trop ennemis de la vraie religion, sont trop superstitieux pour conjurer la crainte des prodiges par des vœux et des victimes expiatoires. En fait, Tacite a très bien compris. Les Juifs ne font pas des victimes expiatoires dès l'instant qu'ils voient apparaître dans le ciel je ne sais quel prodige. Mais il en fait une interprétation défavorable aux Juifs. C'est parce qu'ils sont ennemis de la religion et qu'ils sont superstitieux. Donc, Tacite décrit correctement les Juifs, mais interprète défavorablement leur comportement. On peut parfaitement souscrire à ce qu'il décrit. Effectivement, les Juifs ne font pas des sacrifices expiatoires à la première tempête, alors que les Romains s'empressaient naturellement de le faire. C'est cela qui fait que, aux yeux de Tacite, les Juifs sont perdus. Spinoza reprend cette expression de Tacite, ennemi de tout culte religion et ennemi de tout culte religieux et adonné aux superstitions, expression qui était pour Tacite un chef d'accusation adressé aux Juifs, et il en fait, eh bien précisément, une caractéristique de tous les humains. C'est-à-dire, tout le monde, par superstition, refuse la vraie religion. Tout le monde est tenté de faire des sacrifices. Et on pourrait même dire que, paradoxalement, les moins superstitieux dans cette affaire, précisément, ce sont les Juifs, du point de vue même de Spinoza. Puisque ce que nous dit Spinoza, c'est qu'il n'est pas bon, naturellement, quand on voit un phénomène inaccoutumé, d'aller se mettre à genoux immédiatement. Donc Spinoza prend le contre-pied d'une expression de Tacite, qu'il fausse même littéralement, puisqu'il transforme un mot en un autre, hein, il substitue pi par à un pi, face à nefas, donc il truque le texte latin qu'il connaît très bien, parce que Spinoza en fait a appris le latin très tard, et il a appris le latin en apprenant des pages de latin par cœur. Il a joué des pièces de théâtre en latin, il a appris les historiens latins, etc. Ce qui fait qu'on trouve sous sa plume des expressions de Térence, de Tacite, etc. Tout simplement parce que c'était la langue qu'il parlait. Et son latin n'est pas très pur, en vérité. C'est un apprentissage tardif. Donc, Spinoza prend le contre-pied de ce que j'appellerais brutalement, et il faudrait mettre 1000 guillemets, l'antisémitisme de Tacite, pour porter au crédit des Juifs ce qui faisait, pour Tacite, l'objet d'une disqualification. Donc, on pourrait dire que dans cette affaire, les Juifs sont presque épargnés du complexe, par le complexe théologico-politique. Le deuxième argument, c'est que dans la deuxième partie de la préface, qui commence par ceci, « J'ai souvent admiré que les hommes, etc. » Première apparition de l'ego. C'est ce qui fait penser qu'en vérité, on a vraiment une deuxième partie qui répond à la première. Regardez ce que dit Spinoza. « J'ai souvent admiré que les hommes qui se vantent de professer la religion chrétienne, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la continence et la bonne foi envers tous, se combattent avec tant de malveillance et exercent tous les jours les uns contre les autres la haine la plus âpre. » En fait, qui il prend au piège de leur propre conviction ? Pas les Juifs, les chrétiens. Je crois qu'il y a une expression de Rousseau dans ce texte formidable de l'Émile, la profession de foi du vicaire savoyard, le livre 4, quand il parle des chrétiens et des persécutions qu'ils infligent aux Juifs. Il dit « Les Juifs savent combien peu l'injustice et la cruauté coûtent à la charité chrétienne. » Il y a quelque chose de ça ici. C'est-à-dire que des hommes qui se vantent de pratiquer toute la journée l'amour et la charité sont en vérité en lutte les uns contre les autres en permanence. Donc il semble bien que cette deuxième partie de la préface prenne pour cible exactement les chrétiens qui n'appliquent pas leur programme de charité. Il les prend au piège. Donc, si je lis la préface, curieusement, les Juifs, et tout à l'heure, Joe a évoqué l'excommunication, pourraient imaginer que les Juifs sont à l'horizon de la rédaction du traité théologico-politique. C'est vrai sur le plan biographique, mais quand on lit la préface, ça n'est pas du tout le cas. Ceux qui sont à l'horizon, c'est l'universalité des hommes. Il y a un trait commun à tous les hommes, c'est le fonctionnement de l'imagination en situation d'incertitude. Et deuxièmement, les chrétiens en particulier. Les chrétiens en particulier parce que eux-mêmes luttent les uns contre les autres. Et on sait, dans un pays calviniste, ce qu'a coûté la réforme. Et en plus, au sein des églises calvinistes, il y a une guerre sans merci entre différentes factions. Des synodes interminables, je passe les détails ici, mais en 1619, les uns l'emportent contre les autres, enfin, chacun anathématise l'autre, ça n'en finit pas. Donc, Spinoza sait ce que veut dire l'idée d'un conflit religieux. Les juifs sont épargnés. Donc, en effet, on pourrait tout simplement dire que le TTP ne prend pas pour cible d'abord les Hébreux et le complexe théologico-politique, c'est-à-dire ce lien problématique et suspect entre le théologique et le politique, n'est pas d'abord un fait juif. C'est un paradoxe, parce qu'en vérité, l'un des premiers textes que Spinoza ait écrit, dont on n'a pas gardé de traces, mais sur lequel nous avons des témoignages, c'est une apologie de Spinoza lors de sa sortie de la synagogue. Je traduis littéralement. Il a écrit, dans les années 55-56, un plaidoyer pro-domo, au moment où il sortait de la synagogue. Alors, est-ce que c'était exactement après l'excommunication, un petit peu avant? La question de savoir s'il était déjà excommunié, est-ce qu'il s'était lui-même exclu intérieurement avant d'être mis au banc officiellement par les autorités de la synagogue, se pose. Mais on sait que cette apologie de Baruch Spinoza par lui-même au moment de sa sortie de la synagogue, comme elle s'intitule, a fourni, si je puis dire, le premier crayon au traité théologico-politique. Certains montrent que ce texte, que nous n'avons pas retrouvé, a fourni une ébauche au traité. Et pourtant, dans le traité, rien, du moins dans la préface, ne transparaît de cette réaction à cette sortie de la synagogue. Deuxième série de remarques qui exonèrent les Juifs de toute responsabilité dans l'instauration d'un complexe théologico-politique lui-même délétère. C'est que quand Spinoza relit l'histoire juive, il dépeint un âge d'or de la politique. Spinoza va relire la Bible et va assigner, dans des limites très déterminées, un moment où le rapport entre théologique et politique était idéal. C'est un peu comme l'état de nature de Rousseau, puis à un moment, ça bascule. Il s'est passé quelque chose. La nature s'est trouvée moins prodigue, moins féconde, il a fallu passer à un autre type d'organisation. Eh bien, c'est un peu ce qui va se passer. Il s'est produit un moment où, dans l'histoire juive, le théologique et le politique nourrissaient des rapports qui étaient absolument exemplaires. De quoi s'agit-il? Ces rapports sont définis au chapitre 17 et au chapitre 5. Je prends le chapitre 17, dans la nouvelle édition, donc page 567-568. Je vais lire ce passage et le commenter en le lisant. Nous avons déjà dit plus haut, au chapitre 5, je reviendrai donc sur le chapitre 5 tout à l'heure, qu'une fois sortis d'Égypte, les Hébreux n'étaient plus tenus par le droit d'aucune nation. En Égypte, ils étaient soumis au droit égyptien. Mais une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, il n'y a plus de législation. Mais qu'il leur était permis d'instituer à loisir de nouvelles règles de droit et d'occuper les terres qu'ils voulaient. Car une fois libérés de l'intolérable oppression des Égyptiens, et n'étant plus soumis à aucun mortel, par aucun pacte, ils n'avaient pas contractuellement décidé d'obéir à quiconque, ils recouvrèrent leur droit naturel à tout ce qu'ils pourraient faire. Ils avaient un droit naturel, le droit que la nature nous donne, de faire ce que nous voulons faire dans l'état de nature. Chacun peut faire ce qu'il veut dans l'état de nature. Donc les Hébreux sortent d'Égypte, ils n'ont plus de législation à laquelle se tenir, ils peuvent donc faire ce qu'ils veulent. Chacun donc pouvait à nouveau décider s'il voulait retenir ce droit ou le céder et le transférer à un autre. Dans l'hypothèse où il le céderait ou transférerait à un autre, il se produirait deux configurations. Une configuration, ce serait par exemple de se mettre sous la juridiction d'un autre État, retourner en Égypte par exemple, comme le proposent certains, ou bien aller voir un autre peuple et dire « bien, nous sommes un peuple libre, nous venons habiter chez vous et nous allons obéir à vos lois ». Autre configuration, s'associer entre eux, les Hébreux, remettre le pouvoir à une autre instance qui émanerait de la collectivité, théorie du pacte social, un peu étrange que Spinoza soit un théoricien du pacte ici, mais enfin c'est le cas. Et puis, ensuite, ils dépendraient complètement de l'instance à laquelle ils auraient confié leurs droits. Donc, placés dans cet état naturel, ils décidèrent, sur le conseil de Moïse, en qui tous avaient la plus grande foi, de ne transférer leurs droits à aucun mortel, mais seulement à Dieu. Donc ils sortent d'Égypte et ils disent, ben maintenant, on n'obéira plus aux hommes. Notre seul roi, notre seul chef, sera Dieu. Et sans plus temporiser, tous, de façon égale, d'une seule clameur, promirent à Dieu d'obéir absolument à tous ses commandements et de ne reconnaître d'autre droit que ce que lui-même, Dieu, par révélation prophétique, établirait comme droit. Donc, les Hébreux, sortant d'Égypte, se soumettent à la loi divine parce qu'ils ont décidé que leur seul chef serait Dieu. Et cette promesse, autrement dit, ce transfert de droit à Dieu, se fit de la même manière que dans la société commune, selon le concept que nous en avons exposé plus haut, quand les hommes décident de céder leurs droits naturels. En fait, les Hébreux ont passé un pacte avec Dieu, comme on passe un pacte en démocratie. Tous les hommes s'associent et décident que le souverain sera détenteur de la puissance agrégée de tous les individus. En vérité, qu'est-ce qui se passe ? S'instaure quelque chose comme une théocratie qui n'est rien d'autre qu'une démocratie. Pourquoi c'est une démocratie, cette théocratie, c'est paradoxal ? Ben, tout simplement, nous dit Spinoza, parce que il y a ceci de commun avec la démocratie, que dans la démocratie, nul n'est esclave de son prochain. Eh bien, quand les Hébreux ont remis tout leur pouvoir à Dieu, Dieu était seul juge et souverain, et par conséquent, personne n'était à la merci de son prochain. La soumission à Dieu permettait d'exempter les individus de toute soumission à l'égard du prochain. Et donc, il y a une très heureuse convergence entre théocratie et démocratie. Le chapitre 5 dit la même chose, page 414. Théocratie est un apax, ça n'apparaît qu'une seule fois, du traité théologico-politique. Je cite, l'accent est un peu différent. Ici, dans le chapitre 5, les Hébreux remettent le pouvoir à Moïse. Mais Moïse, de toute façon, c'est le prophète envoyé de Dieu qui fait converger en lui à la fois le pouvoir politique et le pouvoir religieux. L'empire, c'est-à-dire le pouvoir, j'ai toujours traduit imperium par empire parce que c'est un mot très difficile à traduire. L'empire dut donc demeurer entre les mains d'un seul qui exerça l'empire sur les autres et les contraignit par la force afin qu'il leur prescrivit des lois et les interpréta pour l'avenir. Or cet empire, Moïse put aisément le détenir parce qu'il surclassait les autres par une vertu divine, persuada le peuple qu'il possédait cette vertu et en montra de nombreux témoignages. Ainsi donc, c'est lui qui, par la vertu divine qui faisait sa force, établit des règles de droit et les prescrivit au peuple. Donc, que ce soit une théocratie, Dieu directement dans le chapitre 17, ou que ce soit Moïse, c'est la même chose. Parce que Moïse exerçait son pouvoir en vertu d'une vertu divine. Ce faisant, il eut très grand soin que le peuple accomplisse sa charge, non tant par crainte que de soi-même. À quoi le contraignait de choses, etc. Moïse, donc, par une vertu et un ordre divin, introduisit la religion dans la République, pour que le peuple s'acquittât de son devoir, non tant par crainte que par dévotion. On est beaucoup plus efficacement citoyen quand on est mu par la dévotion que par la crainte. Et donc, l'État devenait un objet religieux. On était citoyen et obéissant à Dieu. Il y avait une espèce d'identité totale entre le politique et le religieux. De fait, donc, il leur était interdit de pratiquer un certain nombre de lois. Spinoza interprète la halakha comme les lois positives d'un État, qui était en fait l'État des Juifs. C'est-à-dire que le recouvrement du politique et du religieux faisait que les lois, ce qu'il appelle les cérémonies, c'est-à-dire l'ensemble du culte juif, était en fait simplement une législation politique. Et Moïse nous dit-il, s'est très bien débrouillé parce qu'il a installé l'identité entre ces deux niveaux. Et c'était un très heureux moment. Tout le monde servait l'État avec dévotion, comme on servirait Dieu. Et en servant Dieu, on était citoyen de son État. Cette thèse a une conséquence, nous dit-il. Elle est énorme. C'est qu'une fois le Second Temple détruit, une fois l'État perdu, les lois juives n'ont plus de sens. Et ça, c'est une conséquence extrêmement lourde. C'est un prix très lourd à payer pour la thèse de Spinoza. Donc, et c'est le chapitre 3, qui est peut-être le chapitre le plus controversé de cette première partie du TTP, soutient cette thèse. La halakha n'a plus de sens en diaspora. Mais si je mets de côté cette thèse, on comprend bien maintenant que les Juifs ont mis en œuvre un complexe théologico-politique sain. Tout fonctionnait. C'était une théocratie démocratique ou une démocratie théocratique. Alors, la chose se gâte après Moïse, mais enfin pas tout de suite. Les chapitres 17 et 18 vont relire complètement l'histoire juive et vont montrer comment les rapports entre politique et religieux vont se négocier. Moïse lui-même était prophète, mais il n'abuse pas de son aura religieuse. Il aurait pu soumettre le peuple à sa propre volonté. Il aurait pu usurper le pouvoir qu'il détenait de Dieu. Après tout, il avait auprès du peuple cette aura. Et pourtant, nous dit-il, il n'en a pas abusé. Aux yeux de Spinoza, Moïse est surtout un chef politique extrêmement habile. Par moments, on se demande même si Spinoza ne pense pas que Moïse fait œuvre de ruse. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il faut doter un certain nombre de ses décisions politiques d'une majesté religieuse. Mais la suite est un peu plus complexe. Il faut que l'État reste théocratique, parce qu'on a compris les bienfaits de cette théocratie. Liberté pour tous, mais en même temps, Moïse n'est plus là pour détenir seul cette vertu divine qui fait tout son prestige. Donc, que va-t-on avoir après Moïse ? Des lois préservées par les ministres du culte, et d'autre part, un pouvoir religieux qui n'est plus identifié à ces ministres du culte. Après Moïse, apparaît cette dissociation entre le théologique et le politique. On va avoir des chefs politiques qui ne seront plus des ministres du culte, et on va avoir des détenteurs de la loi juive qui n'auront plus de pouvoir politique. Seul Moïse détenait en quelque sorte le secret de cette heureuse convergence. Alors, le pouvoir politique est détenu par les juges, et Spinoza nous dit qu'ils étaient juges parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir législatif. De fait, la loi, c'était la loi qui avait été donnée à Moïse par Dieu. Donc les juges n'avaient pas le pouvoir de faire la loi. Le pouvoir politique dans l'état des juges est simplement celui de juger, c'est-à-dire éventuellement d'analyser la loi, etc., de s'intéresser à la façon dont les cas particuliers rentrent dans le cas général proposé par la loi, mais la loi est déjà là. Quant aux religieux même, ce sont les prêtres, le pontife, comme il dit, difficile à traduire, parce que, évidemment, il a sans doute en tête une équivalence entre les autorités chrétiennes et les autorités juives. Le pontife détient, lui, les lois qu'il n'a pas le droit de modifier, dont il est le gardien. Lui seul peut dire quelle est la loi. Il peut arriver que le juge ne sache pas quoi faire. Alors, il va interroger le juge supérieur. Et puis quand le juge qui est au sommet ne sait plus quoi faire non plus, il va voir le pontife qui lui dit « Voilà la loi dont je suis le détenteur. » Mais le pontife lui-même ne la fait pas, la loi. Et donc, il y a une espèce d'harmonie entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Le pouvoir politique ne peut pas faire les lois, il peut simplement veiller à l'application des lois, et le pouvoir religieux ne peut pas changer la loi. D'où l'interprétation de la mitzvah de Hakel, de la lecture de la loi tous les 7 ans, Spinoza nous dit, parce qu'il fallait que le peuple connaisse la loi pour surveiller les prêtres. Parce que les pontifes pouvaient être tentés de changer la loi. C'était eux qui en étaient les gardiens. Donc si tous les 7 ans, à voix haute, on lisait le texte, ça permettait d'éviter que, secrètement, des modifications soient faites par les pontifes. Donc il y a des autorités qui se surveillent. En vérité, le pouvoir religieux est inférieur au pouvoir politique, parce qu'il ne peut donner son sentiment que s'il est interrogé par le juge. Il n'a pas le droit de donner son sentiment si le juge ne l'a pas interrogé. Et son sentiment, il le donne, mais il n'a d'avis que consultatif. Il ne peut pas dire « le juge a eu tort, c'est pas comme ceci ou c'est pas comme cela ». Il a donné son avis, mais c'est tout. Donc cela fonctionnait à peu près bien. À partir de quel moment l'affaire va se déliter? Et à partir de quel moment, et j'en viens à ma deuxième partie, l'histoire des Hébreux va exemplifier le problème théologico-politique? À partir de quel moment le problème théologico-politique va surgir? Dans ces chapitres 17-18, on va voir à l'œuvre deux strates de délitement. Premier moment, la demande d'avoir un roi. L'idée d'avoir un roi, évidemment, c'est une notion que nous connaissons bien. L'idée d'avoir un roi, la demande de roi, est précisément ce qui va inaugurer le début de la fin. Pourquoi? Parce que les premiers rois, page 585, qui furent élus parmi les particuliers, élus choisis, mais bon, se contentèrent du degré de dignité auquel ils s'étaient élevés. Mais après que les fils se furent rendus maîtres du royaume par droit de succession, ils commencèrent à tout changer peu à peu pour détenir seuls le droit de l'Empire, dont la plus grande partie leur échappait, tant que le droit sur les lois ne dépendait pas d'eux, mais du pontife. Puisque les rois sont maintenant rois par droit héréditaire, ils sont bien gênés d'avoir dans les pattes un pontife qui est détenteur de la loi. Donc, le pouvoir religieux les ennuie. Le pontife, dit Spinoza, qui gardait les lois dans le sanctuaire et les interprétait pour le peuple. Par suite, les rois étaient tenus aux lois comme des sujets. Et ça les gênait beaucoup. Ne pouvaient pas les abroger, en fonder de nouvelles, etc. Ils avaient donc les pontifes, ils avaient donc un empire dans un empire. Ils avaient un pouvoir dans l'État. C'était celui de diriger les rois. Que font les rois? Pour surmonter cela, ils accordèrent qu'on consacrât d'autres temples aux dieux. Les rois vont inventer de nouveaux dieux et vont fomenter dans le peuple de nouvelles croyances. Ils vont inventer un pouvoir théologique qui va être tout à leur solde, afin qu'on ne consultât plus les Lévites. Ensuite, ils se mirent en quête de plusieurs personnes qui prophétisassent au nom de Dieu. En fait, ils vont chercher des prophètes, et peut-être même des faux prophètes. Mais quelque effort qu'ils fissent, ils ne purent jamais réaliser leurs vœux. En effet, les prophètes, prêts à tout, attendaient le moment opportun, à savoir que l'Empire revint au successeur, donc le moment d'une succession. Au moment où le pouvoir est donc précaire, à ce moment-là, ils pouvaient facilement, avec l'autorité divine, introduire quelqu'un qui était hostile à l'autorité du roi et faire capoter la succession. Qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Ils ne faisaient que supprimer un tyran et en faire advenir un autre. Bref, l'idée même d'instaurer une royauté a introduit une concurrence entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Et l'idée que le pouvoir politique va fabriquer du religieux pour s'octroyer un magistère qu'il n'a pas ou que les pontifes ne sont pas obligés de lui donner. Naissance, en quelque sorte, du premier moment, c'est-à-dire du moment où le politique se fait religieux. Le politique invente des institutions religieuses propres à lui donner tout le lustre dont il a besoin. Et ce faisant, il fomente une guerre entre les institutions religieuses déjà présentes, légitimée par Dieu même, là-dessus Spinoza ne tergiverse pas. Et les faux prophètes. Et puis d'autre part, les vrais prophètes, nous dit-il, parce qu'il est sévère aussi avec les vrais prophètes. Spinoza nous dit, les vrais prophètes, à force de gratter, etc., à force de vouloir corriger les hommes, ils les ont plutôt énervés, excités, etc., que vraiment corrigés. Donc les vrais prophètes aussi avaient une action qui finissait par grignoter la santé du peuple. Ça, c'est la première strate. Deuxième strate, dans les mêmes pages, une loi. Alors cette fois-ci, une décision qui émane, nous dit Spinoza, de Dieu lui-même et qui est délétère sur le plan théologico-politique. Il nous dit la chose suivante. La visée première de Dieu fut de transmettre tout le ministère sacré au premier-né. C'était les premiers-nés qui devaient servir dans le temple. Non aux Lévites. Voyez, nombre 8, 17. Mais après que tous, à l'exception des Lévites, eurent adoré le veau, la faute du veau d'or, les premiers-nés furent répudiés, puisqu'ils appartenaient à toutes les tribus, et rendus impurs, et les Lévites furent choisis à leur place. Deutéronome 18. Ce changement, plus je le considère, plus il me pousse à m'écrier dans les termes de Tacite, le même Tacite qui tout à l'heure avait été détourné de son usage. Il y aurait un article ou une thèse à écrire sur Tacite, parce que finalement, il est pris dans les deux sens. À m'écrier dans les termes de Tacite, qu'en ce temps-là, Dieu eut soin non de leur sécurité, mais de sa vengeance. C'est-à-dire que si Dieu avait voulu préserver la sécurité du peuple, dit Spinoza, il aurait maintenu le pouvoir religieux au premier-né. Mais il était tellement en colère qu'il a été soucieux davantage de sa propre vengeance que de la sécurité du peuple. Et donc il a exclu, soustrait une tribu par rapport aux autres. Et il lui a donné le monopole du pouvoir religieux. Et je ne peux assez admirer, c'est-à-dire m'étonner, que dans un esprit céleste, il y ait eu une colère si grande qu'elle fonda les lois même, qui ne visent toujours que l'honneur, hein, dans l'esprit de se venger et de punir le peuple. Tous les présents, en effet, qu'on était tenus de donner aux Lévites et aux prêtres, comme aussi le fait qu'il fallait chercher, racheter les premiers-nés et payer aux Lévites une certaine somme par tête, le fait enfin qu'il était accordé aux seuls Lévites d'accéder aux choses sacrées, tout cela leur montrait continuellement leur impureté au peuple et leur répudiation. Les Lévites, en quelque sorte, faisaient honte au peuple. Ensuite, les Lévites avaient de quoi les réprouver continuellement, car il n'est pas douteux que parmi tant de milliers d'hommes se soient trouvés de nombreux théologastres intraitables. D'où, dans le peuple, le désir d'avoir l'œil sur les actions des Lévites. Ils nous humilient, nous allons les surveiller. Quoi donc d'admirable si dans les périodes d'inactivité, quand cessaient les miracles manifestes et qu'il n'y avait pas d'homme d'autorité très remarquable, l'âme du peuple, irritée et avide, commença à s'alanguir et finit par faire défection à un culte qui, bien que divin, lui était ignominieux et même suspect, et qui en désira un nouveau. Bref, nous passons d'un état théocratique à un état clérical. Dieu lui-même a fabriqué une tribu de clercs qui détiennent seuls le pouvoir, non plus théologique maintenant, mais proprement clérical. C'est-à-dire qu'ils sont soustraits au regard du peuple, et en quelque sorte, ils en remontrent au peuple et au roi même. Ce qui fait qu'ils suscitent l'avidité, l'envie, la jalousie, la surveillance, etc. On peut dire que, dans une certaine mesure, cette deuxième source de délitement est la plus grave. Pour Spinoza, la fabrication d'une caste de clercs toujours à même de surveiller le peuple et les rois, est le plus grand des dangers. À la limite, que le pouvoir politique qui vise la sécurité des corps et des hommes s'arroge un pouvoir religieux pour se donner plus de lustre et donc plus d'efficacité, cela peut être admissible. Mais qu'un pouvoir religieux se construise comme le monopole d'une tribu qui se transmet de... Le pouvoir est un pouvoir indiscutable de père en fils. Voilà qui est très grave et qui participe de fond en comble à la ruine de l'État. Et donc, en fait, le grand problème pour Spinoza, dans le traité théologico-politique, c'est moins le fait que les politiques se parent du lustre religieux. C'est un problème, mais ça peut être correctement gouverné. Il suffit que les religieux marquent leurs réserves, etc. Que tout le monde surveille ce pouvoir des politiques. C'est possible. C'est moins, donc, cette première usurpation que la seconde. Le fait que le pouvoir clérical s'octroie des droits politiques et que, par conséquent, ils se mettent à surveiller les hommes politiques et que, donc, ils se frayent une voie vers le pouvoir. C'est l'expression qu'il dit souvent, qu'il donne souvent, se frayer une voie vers le pouvoir. Autrement dit, à un moment, eh bien, le pouvoir politique a été assuré par les religieux. Et c'était le début de la fin, nous dit-il. Bon. Donc, on comprend par parenthèse pourquoi Spinoza ne sépare pas le politique et le religieux. J'ai dit au début qu'il allait les désarticuler, qu'il allait introduire de nouvelles relations. Je m'explique. J'ai dit qu'il n'était pas illégitime au pouvoir religieux, au pouvoir politique, de se parer d'un certain lustre religieux. C'est tout à fait vrai. Pour Spinoza, le pouvoir politique vise la sécurité des citoyens. Si l'efficacité exige qu'il soit doté d'un certain lustre religieux, pourquoi pas ? Spinoza n'en disconvient pas. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans le chapitre 19, il défend l'idée totalement étrangère à notre concept de laïcité. C'est pourquoi je ne comprends pas du tout quand on fait de Spinoza un apôtre de la laïcité, comme on dit, laïcité à la française, c'est un contresens total. Il fait du pouvoir politique le détenteur de ce qu'on appelle à l'époque le jus kirka sacra, le droit sur les choses sacrées. Le droit sur les choses sacrées, qu'est-ce que c'est ? C'est le pouvoir d'administrer la religion. Eh bien, en régime laïque à la française, si je puis dire, ce sont les religieux qui détiennent ce pouvoir. Et les politiques détiennent le pouvoir sur les choses politiques. Bon. Eh bien, Spinoza dit, il faut mettre le religieux sous la juridiction du politique. Parce que la sauvegarde de la concorde et de la paix est première. Les religieux étant eux-mêmes des hommes, ils pourront toujours vouloir s'octroyer un pouvoir illégitime. Par conséquent, il faut demander au pouvoir politique d'administrer les affaires du culte. Donc ça n'est pas du tout un défenseur de la séparation, comme parfois on le dit. C'est à contresens. Conséquence, Spinoza ne vise donc pas à séparer le théologique et le politique. Il vise à montrer, à partir d'une situation idéale qu'a représenté le magistère de Moïse, les causes d'un délitement progressif qui en est arrivé à construire une situation malsaine, où il y a une concurrence entre les rois qui fabriquent des faux prophètes, qui grignotent le corps social et les convictions du peuple, et de notre côté, une transmission héréditaire d'un pouvoir religieux qui devient politique parce qu'il y a l'ambition des hommes, quels qu'ils soient. Donc il faut renégocier ces pouvoirs et demander au pouvoir politique d'administrer les choses sacrées. Alors, tout cela s'enracine finalement tout cela se ouvre à deux analyses, si je puis dire, dont Spinoza a pu faire, en quelque sorte, l'expérience. L'excommunication. Il est très difficile d'en parler parce qu'on n'a pas grand-chose. Les dossiers, on trouve assez facilement le dossier complet. En 1956, Spinoza n'a rien écrit. Et d'ailleurs, il n'écrira pas grand-chose. Enfin, il publiera de son vivant deux textes, le TTP, et puis un texte qui est un cours sur la philosophie de Descartes, où il parle très peu en son nom. Donc, à 24 ans, au moment où il est exclu, Spinoza n'a pas encore écrit grand-chose. On ne sait pas bien les raisons de cette excommunication. Tout ce qu'on sait, c'est que l'excommunication à l'époque à Amsterdam était souvent décidée par les autorités politiques de la communauté. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui les administrateurs qui l'a décidé. Ce n'était pas un pouvoir religieux. Même si, et ça ouvre une question, le texte de l'excommunication est d'une très grande brutalité, assez exceptionnelle. on a du mal à croire que cette excommunication ait pu être prononcée pour les raisons analogues à celles qui faisaient qu'on prononçait dans la même période des excommunications comparables. Par exemple, on prononçait des excommunications pour des raisons financières. La communauté d'Amsterdam était très soucieuse que les juifs n'aient pas de problème d'argent avec les chrétiens. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir de problème. C'était quand même d'anciens maranes, enfin tout ça s'était très mal passé en Espagne et au Portugal. Donc il fallait quand même ménager les susceptibilités des chrétiens. Donc dès qu'il y avait une affaire financière problématique, l'outil dont disposaient les parnassimes à l'époque, les administrateurs, c'était la menace d'excommunication sur les fidèles. Donc c'était d'abord un outil politique, un outil économique. Et ça permettait au Parnassim de montrer au pouvoir politique qu'il gérait la communauté, qu'il tenait leurs ouailles et que les Juifs ne représentaient pas de danger pour les chrétiens. Donc c'était une manière de négociation théologico-politique. Spinoza a-t-il été exclu pour avoir manifestement fait état d'opinions hétérodoxes ? C'est possible. On a quelques témoignages là-dessus, mais ils sont incertains, donc il est très difficile de les valider. Et d'autre part, ça aurait été l'une des seules fois pour lesquelles une telle excommunication aurait été prononcée. Mais il est vrai que cette excommunication nous place au cœur de la question théologico-politique. Et puis, à un autre niveau, dans la Hollande qu'habite Spinoza, la question théologico-politique se pose exactement dans les termes qui sont ceux dans lesquels il a analysé l'histoire biblique. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Le pouvoir théologique, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les prédicants, ce qu'on appelait les contre-remontrants, une certaine secte extrêmement rigoureuse, essayait de grignoter le pouvoir politique pour instaurer une théocratie, mais une théocratie qui n'était pas aussi heureuse que la théocratie de Moïse, mais une théocratie qui aurait été simplement le pouvoir clérical d'une faction. Donc Spinoza, de son temps, fait l'expérience d'une manière de répétition de la situation qu'il analyse dans la Bible. Conclusion. C'est pas tant dans le judaïsme comme corps de doctrine que dans l'histoire juive que Spinoza trouve à réfléchir. Parce qu'en vérité, il n'y a pas pour Spinoza de corps de doctrine qui ne soit historicisé. Tout est historique chez Spinoza. Après tout, les Hébreux sont un peuple qui ont traversé l'histoire et qui ont donc, comme tout ce qui traverse l'histoire, des péripéties, des aventures, des modifications de leur propre doctrine, etc. Donc la question théologico-politique se pose correctement quand on lit correctement la Bible et qu'on y trouve source d'inspiration pour la théorie du complexe théologico-politique. Ce qui l'inspire surtout, en vérité, c'est l'échec du Second Temple, puisque c'est pour lui à ce moment-là que les Lévites, comme il dit, se frayent une voie vers le principat, c'est-à-dire vers le pouvoir politique. Dans le premier, ils étaient à peu près tenus par l'équilibre des pouvoirs. Voilà pourquoi, fondamentalement, la question théologico-politique chez Spinoza se pose dans des termes bibliques, c'est-à-dire par l'analyse de la Bible. Alors, faisant cette analyse, vous comprenez, et je reprends le tout début de mon exposé, il peut répondre à ceux qui, parmi les plus radicaux, des prédicants, c'est-à-dire des religieux de son temps, des calvinistes radicaux, il peut répondre à ces gens sur la base de leur propre texte, en leur faisant une leçon d'histoire biblique, et en leur disant, vous pensez sauvegarder l'État calviniste, vous travaillez à sa perte. Et cela, c'est l'histoire des Hébreux qui vous en instruit. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie.
Merci pour un exposé remarquable. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, donc il y a un temps d'exposé, puis un temps assez long de discussion qu'on va démarrer tout de suite, qu'on peut poser principalement, j'imagine, Adan. Il y a beaucoup de spécialistes de Spinoza, beaucoup de maîtres, et donc on peut aussi se poser des questions transversales. Qui veut commencer?
Des réactions, hein. Enfin,
des réactions.